Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Claire Legendre, vous êtes écrivain, vous êtes française, vous êtes installée à Prague depuis quelques temps, presque un an. Vous êtes également professeur de lettres, vous avez 30 ans et vous avez déjà à votre actif alors 5 romans, 2 ouvrages en collaboration avec votre compagnon Jérôme Bonnetto. Vous avez également un recueil de nouvelles à votre actif, plus des pièces de théâtre. Et on se rencontre ici, donc à Prague, où vous vivez, puisque vous venez de sortir un nouvel opus, L'écorché vive, qui est paru chez Grasset début mai. Alors un petit peu en introduction, j'aimerais que vous me rappeliez un peu juste l'histoire de ce roman et sa jeunesse, parce que c'est un roman très, très ancré dans l'actualité.
L'écorché vif, c'est un roman que je porte depuis très longtemps, dont j'ai eu en fait l'idée il y a quelques années, après avoir croisé dans la rue une jeune fille qui avait un visage déformé. Elle devait avoir 13-14 ans. J'ai croisé son regard et j'ai compris qu'elle était intelligente, forte, digne, déterminée. J'ai éprouvé une certaine honte de ne pas savoir cacher mon trouble en face de ce visage déformé. C'est une image qui m'a poursuivie, d'autant que bon, j'ai appris que cette fille était effectivement quelqu'un de très doué en classe, de très fort, de très déterminé. Quelques années après, quand on a parlé des premières greffes de visage en France, j'ai repenser à elle et je me suis dit que peut-être elle allait pouvoir un jour, par ce biais-là ou par un autre biais chirurgical, avoir un visage entre guillemets normal, visible par tout le monde. Et peut-être, c'est toujours ce à quoi on pense en premier, avoir une histoire d'amour. Et là, je me suis demandé si, en admettant que tout cela soit possible, si elle aurait le courage ou la folie de montrer le visage qu'elle avait eu avant à un homme qui l'aimerait. Et c'est de là qu'est parti l'écorché vif que j'ai fini par écrire après qu'il y ait eu plusieurs greffes de visage en France et donc une actualité très dense à ce niveau-là.
D'ailleurs, c'est assez étonnant, c'est un peu un hasard du calendrier, j'allais dire, puisque récemment, on a entendu parler d'une femme aussi aux États-Unis qui vient d'être greffée, et même d'un homme, j'ai entendu il y a quelques jours, justement, qu'un homme s'était également fait greffer du visage. Donc votre livre tombe un petit peu en plein dedans. Quand on lit votre livre, ce qui m'a frappé, en fait, c'est un aspect très cinématographique. Je ne sais pas si c'est parce que, justement, tout tourne autour du rapport à l'apparence, au visage, etc., et que le cinéma est un peu le catalyseur, justement, de cette apparence, de la manière dont on apparaît aux autres, puisque c'est quand même le monde des stars, finalement. Mais aussi au niveau cinématographique, dans la manière dont vous avez construit votre roman, puisque ça fonctionne un peu sous forme de flashback.
Oui, alors c'est vrai que le cinéma, c'est une influence que j'ai depuis le début, puisque mon premier roman s'appelait Making of et se passait dans le milieu du cinéma. Si vous voulez, j'écris avec des images dans la tête, au moins autant que des mots et des sons. Donc la gageure de ce livre, c'était de suivre un personnage qui change de visage au milieu du livre. Donc en même temps, c'est le grand avantage de la littérature sur le cinéma, c'est qu'on n'a pas l'image. Donc même si on sait que le visage est terrible, on ne le voit pas. Donc chacun projette sa propre vision du monstre sur le personnage. Mais moi, ce qu'il fallait que j'arrive à faire, c'est à convaincre mon lecteur que dans une partie de sa vie, Barbara est monstrueuse, et dans une autre partie de sa vie, elle est, disons, à peu près normale. C'est-à-dire que si vous voyez les dernières images des greffés du visage récents, on peut pas dire que ces gens arrivent à avoir une apparence normale, mais disons qu'on peut imaginer que dans quelques années, on pourra plus deviner quelle opération ils ont subi. Donc c'était vraiment pour moi le problème dans ce livre, arriver à ce que mon lecteur voit deux images différentes pour un seul personnage.
D'où aussi peut-être la manière d'entrecouper donc un peu ces allers-retours entre le passé et le présent.
Donc oui, et puis ça c'était aussi la construction en forme de thriller psychologique entre guillemets.
Roman policier.
Oui, mais j'ai écrit quand même deux polars avant d'écrire ce livre-là. Donc c'est vrai que voilà, je suis partie de cette idée. Barbara vit en couple. avec un jeune homme qui croit qu'elle a eu un accident de voiture et que donc elle a un visage un petit peu figé par la chirurgie, mais sans plus. Elle ne lui a jamais dit qui elle avait été avant. Et un jour, elle reçoit dans sa boîte aux lettres une photo de son enfance sur laquelle son visage a été découpé. Et donc, elle commence à se demander qui lui envoie ça, pourquoi, et à paniquer complètement, comme si sa nouvelle identité, sa nouvelle histoire d'amour était complètement remise en cause par ce monstre qui revient du passé la hanter. Donc oui, c'est une construction qui est sur le schéma du polar, même si j'espère que le livre va au-delà de ce schéma-là.
Justement, cet événement en fait un peu déclencheur, le fait qu'elle reçoive justement ces photos découpées, c'est un peu là où tout bascule, parce que finalement on a l'impression, quand on lit un peu l'enfance voilà et l'adolescence de cette jeune fille qui a toutes les raisons, j'allais dire, d'être traumatisée par son visage, on sent qu'elle a les pieds quand même vraiment sur terre, et on a l'impression que justement avec cet événement, donc cette enveloppe qu'elle reçoit, tout bascule, et que finalement petit à petit il y a une gradation et qu'elle sombre plus ou moins dans une espèce de délire, ou en tout cas un peu de la schizophrénie finalement d'une certaine façon vers la fin, puisque on a l'impression que son visage ne lui correspond, le nouveau visage ne lui correspond plus en fait.
Mais c'est exactement ça, c'est finalement quelqu'un qui s'est construit avec une apparence, avec cette interface-là avec le monde extérieur et les autres. Comment peut-il savoir se comporter une fois qu'il est normalisé? Je veux dire, si demain je suis défigurée pour une raison X, je ne vais pas savoir comment me comporter avec ce nouveau visage. Donc quelqu'un qui serait né monstre, comment est-ce qu'il peut adapter son comportement, comprendre les codes sociaux qu'on a une fois qu'il a un visage normal? Je sais pas, il y a un moment dans le livre où elle se fait aborder par un garçon. Elle sait absolument pas comment répondre, parce que jamais ça ne lui est arrivé. C'est quelqu'un qui s'est construit avec cette dureté d'avoir conscience qu'on a une apparence terrible.
Alors c'est assez paradoxal, parce que vous avez donné à cette héroïne le prénom de Barbara. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Barbie, qui est quand même l'archétype, j'allais dire, de la féminité.
Alors il y a Barbie, et puis il y a aussi les barbares. Vous savez, quand j'ai écrit Viande, mon deuxième roman, il y a 10 ans, c'était un moment où on écrivait, où il y avait comme ça une vague d'écrivains qui écrivaient des choses très dures, et le Nouvel Obs avait titré Les Nouveaux Barbares. Donc Barbara, c'est à la fois le contraire de Barbie, et c'est à la fois la barbarie du regard des autres.
Justement, vous faites référence à Viande. Alors, c'est en regardant un peu votre bio, c'est clair, il y a un thème qui revient, c'est ce rapport au corps et d'un corps un peu mortifère. C'est ce rapport au corps qui revient de manière permanente, et surtout des femmes.
C'est vrai que le rapport au corps, pour moi, il est problématique, parce que c'est le rapport à la féminité qui est problématique. C'est-à-dire que là encore, si j'écris sur un monstre, j'écris pas sur un homme, parce que je crois que le problème du monstre, il est encore plus douloureux, plus fort quand il s'agit d'une femme, parce qu'une femme, c'est par définition censé être agréable à regarder. Donc dans Viande, il y avait déjà cette révolte contre ce principe comme ça admis un peu mollement par tout le monde qu'une femme, ça doit être agréable à regarder. Un homme peut toujours s'en sortir dans la vie avec d'autres atouts, alors qu'une femme, même si elle a beaucoup d'autres atouts, du moment qu'elle est pas agréable à regarder, elle va avoir beaucoup de mal. Mais ça, bon, c'est quelque chose qui est latent, qui est admis par tout le monde, et puis quand on essaye de le dire, on vous dit qu'on enfonce des portes ouvertes. Sauf que je trouve que c'est un vrai sujet quand on essaye de prendre la parole. C'était déjà mon problème à l'époque de Viande. Viande, c'était un livre adolescent. C'était un livre que j'ai écrit quand j'avais 19 ans, qui était extrêmement cru, dur, mais dont je suis contente, parce que je crois qu'il fallait vraiment l'écrire. Quand on essaye de prendre la parole, le problème, c'est est-ce qu'on va vous écouter? Ou est-ce qu'on va plutôt d'abord vous regarder? Et quand vous êtes une femme, en général, d'abord on commence par vous regarder, et ensuite, quand on a fait le tour, on se demande si ce que vous dites est intéressant. L'écorché vif, c'est dans la droite ligne de Viande, c'est 10 ans après. Sauf que là, je m'interroge vraiment sur l'identité. Pas seulement l'identité sexuelle, mais l'identité de ce personnage.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que la couverture de votre livre, L'écorché vif, c'est un tableau de Egon Schiele. Egon Schiele, dont on sait justement, dans sa représentation des corps, c'est les corps assez tourmentés, qui ont souvent, on a l'impression, l'utilisation du rouge que c'est des blessures finalement. En lisant votre livre, moi j'ai pensé aussi à Francis Bacon qui a ses visages complètement déformés. Je me disais que ça aurait pu être très bien une couverture pour votre ouvrage.
Alors c'est vrai que dans le livre il y a des références à Bacon, à Soutine aussi. J'aurais certes aimé que la couverture soit un tableau de Soutine ou Bacon aussi. Pour des raisons annexes qui n'ont rien de littéraire, c'était pas possible. Mais Egon Schiele, c'est vraiment quelqu'un que j'admire depuis très très longtemps. Donc j'avais déjà eu une peinture en couverture de viande en livre de poche que j'avais choisi à l'époque. Je crois qu'on pouvait pas trouver mieux pour illustrer ce roman. Ben oui, il y a cette crudité, il y a cette nudité extrême chez Schiele qui fait que on peut pas aller au-delà de cette vision du corps. Je pense que c'est vraiment une vision extrême. Et quand on est dans un musée en face des tableaux de Schiele, on se sent vraiment nu soi-même. Je veux dire, le regardant est aussi terriblement agressé par ce qu'il le voit.
On va peut-être un petit peu parler de vous, en dehors de votre ouvrage aussi, un petit peu simplement de votre parcours. Vous êtes originaire de Nice. Vous avez commencé à écrire tôt et vous avez eu un beau parrain, j'allais dire, puisque c'est Fernando Arrabal qui vous a aidé, d'après ce que j'ai pu comprendre, à publier votre premier livre.
Fernando Arrabal a écrit la préface de mon premier livre, une fois que le livre allait être publié. Et voilà. En fait, j'ai grandi dans un petit théâtre à Nice que mon papa dirige depuis 25 ans. Il se trouve que mon père a invité plusieurs fois Fernando Arrabal à assister à des créations de ses pièces à Nice. Et donc j'ai rencontré pour la première fois Arrabal, je devais avoir 6 ans. Et il est revenu assez souvent, enfin une fois par an, voir une création. Donc quand j'ai su que Making of, mon premier roman, allait être publié, on lui a envoyé le manuscrit. Et le jour de Noël, j'ai reçu la préface de Making of. Voilà. Donc qui était un vraiment magnifique cadeau. Et évidemment, Fernando Arrabal est un des plus grands auteurs vivants pour moi. Et dont je continue à revendiquer vraiment l'influence. C'est le premier auteur dont j'ai rencontré l'œuvre par le biais du théâtre quand j'avais 3-4 ans, quoi.
Vous vivez à Prague. Pourquoi êtes-vous venue à Prague? Je crois savoir que vous avez pas mal voyagé en Europe centrale. Comment est-ce qu'on atterrit finalement à Prague après des pérégrinations à travers l'Europe centrale?
En fait, j'ai suivi mon compagnon qui était très attiré par Prague et qui avait très envie de vivre ici. Donc on a eu cette occasion de venir vivre ici et qui était un peu un rêve pour moi de quitter Nice et son côté un petit peu ensoleillé avec tout ce que ça a de superficiel, au moins dans l'imagerie populaire. Puis de venir tester ma résistance au climat d'Europe centrale. Voilà, écrire ici, ça n'a pas exactement le même sens que d'écrire à Nice, où il faut s'isoler du soleil pour pouvoir regarder l'écran de son ordinateur. Ici, c'est quelque chose de presque naturel.
Pour rencontrer Claire Legendre et découvrir son roman L'écorché vive, une lecture est prévue le 17 juin prochain à partir de 18h30 au café Fra, au 15 de la rue Šafáříková à Prague. Merci de nous avoir suivis cette semaine encore. On se retrouve dans une semaine, comme d'habitude, même heure, même fréquence. À bientôt, ahoy.